Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons vu mardi dernier la démarche spirituelle qui est à faire envers un frère ou une sœur qui se serait égaré. Et ce soir, je mets l'accent sur une parole de Jésus dans ce texte qui ne doit surtout pas nous échapper quand il dit au verset 15, S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce qui est important pour nous qui sommes des enfants du Seigneur, eh bien, ce n'est pas d'avoir débusqué ou d'avoir été témoin du péché. Ça, c'est une chose qu'on voudrait éviter. Mais dans notre mentalité, dans notre amour que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est de toujours gagner son frère. Ça, je crois que ça doit être la mentalité de chaque chrétien. S'il nous arrive de voir un frère qui pêche, on n'a pas cherché à le voir, on n'a pas cherché à découvrir, mais si la chose se présente, il y a une démarche, mais notre mentalité profonde, c'est de gagner son frère. On dit souvent dans nos rassemblements que là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Littéralement, sont assemblés à cause de son nom. Alors on le cite, on a raison, hein, parce que là où nous nous assemblons autour de la parole de Dieu, c'est à cause de Jésus et Jésus nous fait don de sa présence. Mais il faut quand même souligner que lorsque Jésus dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le moment où il le dit, c'est dans le cadre de celui ou celle qui va tout faire pour gagner son frère. Et là, je crois que ce que le Seigneur veut voir au milieu de nous avant tout, on est tous différents, on a des capacités différentes, on a des profils différents, on a des caractères différents, mais on doit avoir la même pensée, le même cœur gagné à l'œuvre du Seigneur, le salut des âmes, l'amour des âmes, et tout faire pour gagner son frère. Ça relève d'une mentalité saine. Je crois que la parole de Dieu, quand elle transforme un être humain, quand l'être humain vit la nouvelle naissance, eh bien, cette mentalité se développe. Nous avons donc un autre passage à lire ensemble que j'ai noté, c'est dans Luc au chapitre 17. Verset premier, Jésus dit ceci en s'adressant à ses disciples, Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce texte est quand même un texte qui mérite toute notre attention, parce que d'abord Jésus dit, alors, il s'adresse aux disciples en disant qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Et nous savons que Jésus nous connaît mieux que quiconque. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent, nous dit la parole de Dieu. Et quand Jésus dit que c'est impossible, c'est impossible. Quand il dit tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu, on le sait. Et il y a des choses, à l'impression, qui sont inévitables. Mais ça reste le contexte, hein. Il y a une unité littéraire, on ne peut pas enlever « si ton frère a péché » de ce que Jésus vient de dire avant. « Si ton frère a péché, s'il se repent, alors tu lui pardonnes. » Et on retrouve ici la saine mentalité. Jésus parle de 7 fois dans un jour. Alors il paraît que 3 fois, pour la nature humaine, c'est le maximum. Il y a des spécialistes qui parlent comme ça. Alors, 7 fois dans le même jour, hein, pas 3 fois sur un mois ou sur 6 mois ou sur un an, mais 7 fois dans un même jour. Eh bien, la mentalité, c'est que tu lui pardonnes. Et les disciples qui entendent ça, eh bien, ils se rendent compte que c'est au-delà de leur capacité. 7 fois dans un même jour, tu t'imagines? Et Jésus parle d'une dimension de scandale aussi. Alors pour eux, le problème, c'est la foi. Il dit, augmente-nous la foi. C'est un problème de foi. Or, Jésus, quand il va réagir, il va leur dire, mais si vous aviez de la foi comme un petit grain de sénévé, donc c'est minuscule, hein, un grain de moutarde, c'est tout à fait minuscule. Donc, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et Jésus dit, et il vous obéirait. Il y a ce verbe obéir. Je pense que le Seigneur, ce qu'il nous demande, connaissant notre nature, il y a des choses, on est incapable de les mettre en pratique. Il y a des choses qui nous dépassent. Et même, surtout quand on est dans une position où on a des raisons. On a raison, on n'a pas tort, par exemple. Mais la mentalité du chrétien n'est pas la mentalité de quelqu'un qui se présente comme une victime ou comme quelqu'un qui domine devant un tribunal. La mentalité du chrétien, elle est saine. C'est l'intérêt des âmes, c'est l'amour de Christ. Et Jésus dit à ce moment-là, obéir. Et c'est juste après, quand il parle du serviteur, parce que faut pas oublier que nous avons été sauvés pour servir. On est tous serviteurs à un degré différent. Il y en a qui ont plus de responsabilités que d'autres, comme un serviteur de Dieu, mais on est tous des serviteurs et des servantes, avec la responsabilité de servir. Et le Seigneur dit que le serviteur, il fait ce que son maître lui dit. Et parce qu'il fait ce que son maître lui dit, ça réussit, ça marche. Alors dites que comment nous sommes des serviteurs inutiles. Non pas que nous sommes des inutiles, mais en obéissant, eh bien, nous faisons ce que nous devions faire pour permettre à celui qui donne les ordres, eh bien, de voir se réaliser ce qu'il veut voir se réaliser. Et dans la vie chrétienne, il y a des choses, et souvent dans le domaine de la mentalité, pour la saine mentalité, il y a des choses qui sont pour nous des pièges, et pour déjouer ces pièges, il suffit de s'en remettre à l'obéissance. Le Seigneur me demande de, je le fais. Je le fais pas parce que je suis forcé, je le fais parce que j'ai la crainte de Dieu. Je le fais parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Je le fais parce que Je ne peux pas haïr mon frère, je ne peux pas être ennemi de mon frère. Et la chose qui permet que tout se réalise, eh bien, c'est encore de passer par cette obéissance, si j'en ai pas la capacité, pour voir se réaliser l'œuvre du Saint-Esprit qui, lui, a un travail à faire avec le frère et avec moi-même ou la sœur. Donc, c'est important. Et les disciples pensaient que c'était une question de foi. Mais non, on ne peut pas régler des choses, des responsabilités seulement avec le domaine de la foi, mais aussi avec le domaine de l'obéissance, avec la crainte de Dieu. Je reviens à ce chapitre 18 dans l'Évangile selon Matthieu, et quand on regarde le contexte, donc Jésus dit que si deux ou trois sont assemblés à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tout de suite après, vous avez la réaction d'un disciple, Pierre, au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? » Parce qu'il a retenu la leçon. Et là, Jésus dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 70 fois sept fois. » Alors là, Jésus, là, c'est la démesure. C'est la démesure. Hein, vous avez tous fait le calcul, tout le monde l'a fait, hein, 490 fois. Alors quand Pierre dit cette fois, il sort ce chiffre de la journée. Alors, est-ce qu'il faut penser 490 fois? Non, c'est la démesure. C'est impensable. Comment on peut faire? Comment arriver à cela? Mais Jésus le dit. Jésus le dit. Et c'est ensuite qu'il va donner l'exemple, un autre exemple. On est toujours dans le contexte du chapitre 18. Il va dire, c'est pourquoi, au verset 23, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Bon, on va pas lire jusqu'au bout pour gagner un peu de temps, mais ça, vous pouvez le lire chez vous. Et quand il donne l'exemple de ce roi, eh bien, il a un serviteur qui lui doit 10 000 talents. J'ai essayé de savoir à quoi ça correspondait. C'est dans la même démesure que les 490 fois, quoi. 10 000 talents, c'est quand le roi dit, eh bien, puisque tu ne peux pas rembourser, il ordonne que soit vendue sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait pour que la dette soit acquittée. C'est dire l'importance de la somme. L'importance de la somme. Mais quand ce serviteur se met à pleurer, à se prosterner, à faire son mea culpa, et le roi, il use de compassion. Et il lui remet cette dette, une dette importante quand même. Alors cette dette, elle lui est remise. Il y a de la joie chez lui, j'imagine. Vous rendez compte, une dette pareille. Seulement, il va voir celui qui lui devait 100 deniers. Alors, j'ai essayé de faire la comparaison, je n'y suis pas arrivé, mais ça chiffre par million, entre 100 deniers et 10 000 talents. Le gars, il va le voir, il l'étrangle et il jette en prison pour 100 deniers alors que lui, il vient d'être absous pour 10 000 talents. Et là, on a le Seigneur le roi qui réagit, dit ça, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Il le traite de méchant serviteur et il va payer tout ce qu'il devait. Vous savez, des fois, on a l'impression que notre pardon est acquis. On a toute la liberté de faire ce qu'on veut, mais je ne le crois pas. Je crois que dans l'Assemblée, dans l'Église, nous devrions vivre tous sans exception, comme ceux qui ont été rachetés, sans jamais l'oublier, que le prix de notre rachat, à mon avis, c'est au-delà de 10 000 talents, et qu'on ne peut pas se comporter les uns envers les autres comme soit un juge, soit quelqu'un qui va se plaindre même. La saine doctrine doit faire son effet dans notre cœur et cette disposition à toujours pardonner, ça modifie notre mentalité. Je précise que nous devrions toujours avoir cette mentalité à toujours pardonner. Ça ne veut pas dire que nous acceptons tout. Le texte dans Matthieu 18 au verset 15, eh bien, nous le montre. Et je crois que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il y a cet amour de l'âme et de la restauration, ça reste entre nous. Pourquoi je vais faire cette démarche? Parce que j'aime mon frère, mais aucune pitié pour le péché. Le péché ne doit pas trouver sa place au milieu de nous sous prétexte que nous pardonnons tout. Nous pardonnons tout parce que le péché, ne doit bénéficier d'aucune pitié de notre part. Je crois que ça, il faut le comprendre. Notre amour les uns pour les autres, c'est gagner notre frère, le gagner pour qu'il revienne, pour qu'il soit dans la communion fraternelle et que l'Esprit de Christ reprenne sa place. Mais surtout pas pour laisser le péché s'installer sous prétexte que nous sommes de ceux qui pardonnons tout, qui pardonneront encore, oui, mais à partir du moment où le péché est jugé. Et dans ce chapitre 18, c'est là où le Seigneur Jésus reprend un terme qu'on a vu dans Luc 17, quand il parle de ces scandales qui sont impossibles. Il est impossible qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Alors, j'ai choisi une définition ce soir. On peut en donner aussi une autre, mais les deux sont valables. Mais ce soir, j'ai ça sur mon cœur. Jésus dit dans le chapitre 18 que si nous ne ressemblons pas à un petit enfant, eh bien nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. C'est le chapitre que nous voyons ensemble. Hein. Et Jésus dit au verset 6, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende. Ben, il redit ce que nous avons lu dans Luc 17. Il parle de ces petits. Et puis au verset 10, il nous est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Il y a cette œuvre d'évangélisation pour les âmes qui existe avec ces petits. « Que vous en semble, dit Jésus, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarées. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Il y a une différence quand même avec Luc chapitre 15, quand Jésus parle de la brebis qui est perdue, il parle des 99 justes et de la centième. Et Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, je crois que ça nous interpelle. Vous voyez, souvent, nous disons que notre témoignage, le témoignage de l'Assemblée que nous représentons, eh bien, doit être un bon témoignage à l'égard du monde, devant le monde, pour le monde. Le monde nous regarde. C'est vrai. Mais attention, il y a une vie interne, il y a la vie de l'Église et il y a un témoignage entre nous. Ce n'est pas le monde qui le regarde. Ce n'est pas le monde qui le jugera, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Jésus et le Saint-Esprit qu'il représente au milieu de nous aujourd'hui. Et il nous est parlé de ces petits Or, si je place cette expression dans son cadre et dans son explication, il s'agit des petits-enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, et ce sont, je dirais, nos enfants déjà au milieu de nous qui sont témoins de notre vie d'assemblée, de notre mentalité. Et nos petits-enfants sont, hélas, parfois, et c'est terrible parce que Jésus dit qu'il est impossible, hélas, à cause de la nature humaine, quand ce n'est plus le Saint-Esprit qui l'a conduit pour mettre en nous l'Esprit de Christ, eh bien, nous avons des enfants qui vont être marqués et qui seront, pour certains, tellement marqués qu'ils tourneront la page avec le salut de leur âme. Moi, je me souviens de cette jeune fille. J'ai donné ce témoignage, les chrétiens sont certainement en train de l'écouter sur le site, mais une jeune fille qui, vraiment, on a eu des réunions, de belles réunions d'évangélisation avec les jeunes dans des camps de jeunesse, etc. Elle était toujours là. Et je la voyais travailler, je la voyais même dans une certaine émotion. Et un jour, je suis allé la voir et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ton cœur au Seigneur? Tu sais, tu peux me parler, moi je garde tout en moi, je suis serviteur de Dieu, même tes parents ne sauront pas ce que tu vas me dire. Et elle m'a dit ceci, vous savez, je vis avec des parents qui vont à l'église régulièrement, il faut les entendre parler contre un tel, une telle, même le pasteur. Les propos qu'ils ont dans la voiture, ça fait des années que je vais à l'église, je suis témoin de toutes ces choses, et ce n'est pas demain que je ferai comme eux. Je ne veux pas leur ressembler. J'ai eu beau essayer de lui expliquer la responsabilité des uns, des autres, son âme, elle s'est braquée. Et ça m'a tellement marqué que ça s'est passé il y a plus de 20 ans, mais il y a quelques années, je l'ai croisée à Paris, une adulte avec son travail, sa vie, et on a parlé de ces choses. Elle en était encore là avec ces choses-là. Il y a des choses que nous devons exclure de nos vies, et si on peut les exclure, ça commence par notre mentalité. Il faut que les uns et les autres, vous et moi, dans l'Église, nous répandions la bonne odeur de Christ. Et la bonne odeur de Christ, ce n'est pas le tribunal de Christ. De toute façon, ça sera bien plus tard. La bonne odeur de Christ, c'est sa miséricorde. C'est notre cœur qui a été touché par la grâce. Et nous ne voulons être entre nous que des sujets de grâce. Et quand nous voyons nos enfants, nous les chérissons. Moi, je regarde tous les enfants de l'Église. Il n'y a pas que mes petits-enfants, mais tous les enfants de l'Église. Et quand je croise un enfant, quand je le regarde de loin, je dis, Seigneur, garde cet enfant, sauve-le, que le monde ne s'empare pas de cette vie-là. Et à l'intérieur, c'est ça, notre vie. Mais si nous donnons à nos enfants l'exemple du règne de Christ, et ce règne est associé au pardon. Souvenez-vous, le brigand sur la croix, il insulte Jésus et en quelques minutes, il change. Il a entendu Jésus prononcer le pardon pour ceux qui se moquent de lui, ceux qui l'insultent. Lui, il va saisir ces choses-là. Et au moment où il se tourne vers Jésus en espérant qu'il se souvienne de lui, Jésus va lui dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais je dois vous dire que dans nos églises, eh bien, parfois on peine devant certaines situations où au lieu de se demander pardon, que tout de suite on entre avec le règne, le paradis de Christ, des choses qui durent depuis des mois, des années, des fois aussi. Et ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, mais quand on a un cœur pour vivre la vie de Jésus, mais c'est une joie que de se pardonner, c'est une joie que de vivre le résultat de ces choses. Et là, on gagne. Le reste ne nous fait rien profiter. J'ai retenu, vous savez, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, on a de beaux exemples, mais à chaque fois qu'un pécheur se repent, que ce soit cette femme avec cette drachme qui est perdue, elle va la chercher dans la maison, et parfois c'est dans nos propres maisons qu'il y a une âme à trouver. Et quand elle l'a trouvée, elle l'a sauvée, il y a de la joie. Cette centième brebis perdue, quand le berger la retrouve, c'est sur ses épaules qu'il la place, et il y a de la joie. Quand le fils prodigue, il rentre en lui-même, alors le Saint-Esprit peut agir. Et il va retourner voir son père en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Mais le père, il le saisit par la nuque, il le met contre lui. Le père n'attendait que ça. Le père ne l'a pas mis dans une situation où il va y avoir pénitence, il va y avoir discussion de retour, etc. Il le serre contre lui. Et là, c'est la joie. Et puis, vous avez à côté son frère. Et il faut le dire, on a ça dans nos assemblées. C'est triste. C'est triste. Un frère qui, avec le retour de celui qui était perdu pour l'éternité, il se met en colère. Et le père va dire à ce frère qui se met en colère, « Mais, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Mais quels sont ceux qui se réjouissent du salut des âmes? Eh bien, ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Ils ont été sauvés, ils ont été pardonnés. Ils se pardonnent ensemble, ils vivent la joie et la paix du Seigneur. Et quand une âme revient ou quand une âme vient, mais c'est un sujet de joie, mais surtout pas un sujet de colère. Vous savez, il y a des colères qu'on entend, et il y en a d'autres qui sont en sourdine. Mais attention, et je terminerai par là, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, il nous est dit « Autrefois, ben vous étiez des enfants, par nature, vous étiez des enfants de colère, jamais satisfaits, toujours à provoquer des disputes, des discordes. La paix n'existe pas, elle n'était même pas concevable. Mais c'était autrefois, ça. Et puis, dans cette même épître de Paul aux Éphésiens, on arrive au chapitre 4, et ça, je vais lire ces quelques versets. Verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Eh bien là, c'est une belle leçon pour nous encore, parce qu'il y a des colères qui durent, mais ce n'est pas l'Esprit de Christ. Ça relève d'une vie mensongère. Et la Bible nous dit de dire non, renoncer, dites non au mensonge. Nous sommes nés de nouveau. Donc notre comportement est le comportement de celui qui est né de nouveau. S'il y a l'occasion de se mettre en colère, une chose peut arriver, mais on se dresse contre cette colère. Non, il ne faut pas. Et là, ce texte nous demande non pas d'avoir la capacité, il nous demande d'obéir simplement. Comme Jésus nous demande d'obéir quand il faut pardonner 7 fois ou 490 fois. Si nous n'avons pas la capacité, cette capacité, nous sommes loin de l'avoir. Il nous faut vraiment être en Christ avec la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau que de renoncer au mensonge. Non, moi je veux vivre dans la vérité. Je ne veux pas parler à mon frère avec des arrière-pensées, parfois même derrière les arrière-pensées, il y en a encore d'autres. Je veux être ce frère avec une bonne parole. Et si je dois parler, eh bien que ce soit pour édifier, que ce soit pour nous dire des choses qui suscitent de la joie, comme cette joie qu'il y a dans le ciel, mais surtout pas attrister le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous tient loin d'une vie qui ressemble à une vie avec le mensonge. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. L'amertume, ça se combat, l'animosité, colère, clameur, calomnie, tout ça, ça se combat. Il faut que ça disparaisse. Mais pour que ça disparaisse, il faut que nous ayons l'Esprit de Christ en nous, que nous ayons vraiment l'Esprit de Christ en nous. Je me souviens de cette femme qui venait écouter l'Évangile et qui, au bout de quelques réunions, m'a dit ceci: « Monsieur, j'ai compris que Jésus a pardonné mes péchés, mais j'ai du mal, moi, à pardonner le mal qu'on m'a fait. Est-ce que je peux être aidé pour pardonner ce mal ?» Voilà des âmes qui arrivent, et qui arrivent du monde. Elles arrivent, elles étaient enchaînées, et elle ne demande que cela, avoir la force de pardonner, consciente du pardon de Jésus. Et ces âmes, Jésus les ajoute à l'Église. Mais quand Jésus ajoute à l'Église, je suis convaincu que là où il y a l'Esprit de Christ, cette saine mentalité, parce que c'est la saine doctrine, Jésus amène et envoie ces âmes. C'est un havre de paix, sont des pâturages où il fait bon vivre. Nul n'est parfait, nous avons tous les uns et les autres des choses que nous pourrions nous reprocher, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de reproche, c'est une vie où on se réjouit de ce que le Seigneur a été patient avec nous, et nous aussi, nous pouvons être patients les uns envers les autres, mais surtout pas donner l'occasion au diable de s'introduire dans la communion fraternelle à cause d'une mentalité étrangère, et que nos enfants puissent être témoins de ce qui pourrait se dire, même à la maison. Nous devons être les uns et les autres remplis de l'amour de Christ. Voyez, ça fait quand même quelques dizaines d'années. En 1974, j'ai rencontré Jésus, j'étais rempli de haine. Mais plus j'avance, plus je pense toujours et toujours au pardon que j'ai reçu à cette vie nouvelle. Mais s'il n'y avait pas cela, je serais incapable de vivre. Et aujourd'hui, de pardonner, mais d'en avoir la mentalité, mais c'est extraordinaire. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que les âmes se sentent aimées, c'est comme ça qu'on se sent aimé du Seigneur aussi. Alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à être de ces enfants de Dieu qui ne sont pas saisis d'une place pour faire la leur et peut-être leur loi. Mais si une place nous a été donnée, c'est Jésus qui nous a ajoutés à l'Assemblée. Elle est précieuse, cette place. Elle est précieuse parce que c'est une place de grâce, une place de bonheur, une place de joie. quand Jésus a mis cette place dans l'assemblée, il y a eu de la joie dans le ciel. Il y a eu des choses extraordinaires autour de chacun de nous. Ah, le diable voudrait détruire tout ça. Mais si nous avons les yeux fixés sur Jésus, s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire, ben faisons-le par obéissance. Et l'obéissance d'amour, c'est formidable aussi. On finit par dire, Seigneur, tu avais raison, c'est vrai. Oh, c'est formidable. Eh bien, que le Seigneur nous aide, vous et moi, et qu'il nous bénisse tous ensemble.
Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. En effet, nous voulons nous souvenir d'où tu nous as tirés, Seigneur. Nous voulons nous souvenir que nous étions dans les griffes du malin, nous étions dans la boue du péché.